chalis m'était compté. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour à Luc et à André.
Bonjour. Hein,
mes complices maintenant depuis plusieurs mois, qui ont au moins un mérite, c'est celui de me supporter. Nous avions terminé notre propos en évoquant un personnage important qui va retenir notre attention, c'est Jean de Montreuil. Mais le début de cette émission va être consacré à, je dirais, un peu d'archéologie, c'est-à-dire de voir un peu les textes qui nous ont permis aussi d'établir un petit peu le récit que j'ai fait jusqu'à présent. Donc il y a non seulement la fameuse charte, hein, avec la fameuse lettre de Charles V, etc., mais il y a aussi la description que certains contemporains ou d'autres personnes par la suite vont nous rapporter, la description de l'église abbatiale de Chalis, et qui va en quelque sorte nous fortifier dans cette idée que Chalis a sûrement compté dans l'établissement du blason royal de France. Hein, je vous rappelle, le blason royal de France, il est sur fond azur, bleu, je répète, hein, trois fleurs de lys or, posées en 2 et 1, donc 2 en haut et 1 au-dessous. Et parfois, ce blason est entouré d'une courtine, c'est-à-dire d'un espèce de ruban qui fait tout le tour du blason. On l'appelle courtine comme on appelle aussi courtine les murailles qui entourent un château fort. Vous voyez, c'est le même sens. Et cette courtine est rouge. Eh bien, dans la description de Guillaume de Digulville, on retrouve exactement cette même énumération. Quant au blason, je vous rappelle aussi, on commence toujours par le général. Hein, si vous voulez lire un blason, commencez par ce que vous voyez de loin. Hein, si je fais une comparaison avec une histoire enfantine, c'était « Il était une fois dans un pays ». Alors oui, là, c'est plan large. Dans ce pays, il y avait une région avec plein de montagnes. Dans la région avec plein de montagnes, il y avait une ville entourée de courtines. À l'intérieur de cette ville, il y avait un palais. À l'intérieur de ce palais, il y avait une tour. Et dans la tour, il y avait une reine. Vous voyez, donc petit à petit, on va aller jusqu'au centre du blason. Hein, ce qu'on appelle la mise en abîme, en quelque sorte. Et voilà comment on peut lire un blason, d'une façon générale, du plus général au plus particulier. Alors, parlons un petit peu de la description et des textes qu'on va trouver à l'intérieur de l'église abbatiale de Chalis, qui, vous le savez, de nos jours, a été en grande partie détruite. C'est comme dans une forêt, hein, la tronçonneuse du passé ou de l'histoire est passée par là, et les piles sont un peu comme des troncs d'arbres, hein, à moitié coupées ou complètement, dont il ne reste évidemment que les racines. Mais là aussi, notre imagination suffira à reconstruire, évidemment, cette grande église abbatiale. Alors, on nous dit que sur la muraille, qui ferme une chapelle sur l'aile droite de l'église, entre le sixième et le septième pilier, alors ça c'est une description qu'on aura beaucoup plus tard, recopiée, mais qui nous parvient avant la Révolution, il y avait donc au commencement un grand autel. Et sur cet autel était peint une croix avec l'inscription « Redemptoris Muniarma », fortifié des armes du Rédempteur. Au droit de cette croix, il y a les armes de France, avec cette inscription en dessous. Alors, je vous épargne le latin, hein, mais qui nous dit qu'on lutte contre l'effondrement du royaume des Lys. À gauche, encore les armes de France, et au milieu des fleurs de Lys, on va trouver le cas couronné, qui sont les armes de Chalis. Autrement dit, les armes de Chalis sont présentées exactement de la même façon que le blason de Charles V, mais on va ajouter en abîme, parce que c'est au centre, un cas couronné ou pas. Derrière l'écusson est une crosse dorée avec l'inscription à propos des moines de Chalis, du monastère de Charles, etc., etc. En dessous, il y a un second écusson, et à gauche, on va retrouver des inscriptions qui sont liées tout simplement à l'inauguration, comme on dirait de nos jours, de l'église abbatiale en 1219, donc consacrée par Frère Guérin. On a parlé évidemment de Frère Guérin et de la bataille de Bouvines ensemble déjà il y a quelque temps, de l'évêque Gauthier de Chartres, hein, Galtierao Carnotensi, et de Fulcone Tolosana Episcopi, c'est-à-dire, c'est tout simplement l'évêque de Toulouse, hein, qui sont venus donc bénir l'église Notre-Dame de Chaly. Et puis, voilà maintenant une inscription fort longue et fort complexe, car elle est écrite, on dirait de nos jours, en ancien français, hein, mais en français, ce qui est tout à fait étonnant, un peu comme Guillaume de Duville a écrit en français, avec les mêmes difficultés qu'on peut avoir à la lecture et à la compréhension. Donc on va rester quand même dans une ambiance générale du texte. Je ne vais pas à chaque fois couper André en disant « ça veut dire ça, ça veut dire ça ». Peut-être on sera obligé de le faire quand les choses sont un peu trop complexes. Mais laissez-vous guider par la poésie. Alors il s'agit donc tout simplement de l'histoire de la fondation de l'abbaye de Chaly.
En ce tableau fait par verre édicté, peut-on savoir la sœur vérité ? De qui, par qui fut fondé ce couvent ? Un roi français esmeut par équité à ce que fût un sien frère acquitté. De ses péchés le fit en son vivant, et qu'il ira tout en l'escrit en suivant, pourra trouver comment il fût fondé, et que roi débonnaire régnant, de tout son cœur l'eusse pour recommander.
Donc simplement il nous dit qu'il y a un roi français qui a fondé cette abbaye en l'honneur donc de son cousin, hein, afin qu'il soit débarrassé de ses péchés. Il s'agit de Charles le Bon. On va parvenir à la fondation même de l'abbaye de Chaly, mais vous voyez qu'on l'explique très, très simplement.
Ensuite, une vierge tenant son enfant entre ses bras, et au-dessous le roi à genoux, avec cette inscription.
Donc ça, c'est l'auteur du texte qui a fait la copie, qui nous dit, voilà, il y a une image, il nous la décrit. Hein, donc une vierge.
D'accord. Le roi Louis le Gros, vierge excellente, reine supélative, d'humain salut vierge procurative, en qui Dieu fit son doux enfant descendre, dame qui assure tous prérogative, des cœurs dolents, mère consolative, te plaise en gré mon oblation prendre, pour nuit et jour, à toi servir entendre, veux s'y fonder humble religieux, priant celui qui veut en croix estendre, que de Charles, mon frère doux et tendre, reçoive l'âme au saint trône des cieux.
Voilà, c'est comme en Picard, des cieux, cieux, bien sûr. Donc là, il s'agit de la dédicace à la Vierge. Hein. Superlative, celle qui procure, celle qui protège, celle qui console. Et donc, on va lui offrir, l'oblation, c'est on va donner, hein. On va lui offrir donc l'église de Chaly, on va lui dédier. Alors après, on continue la description, on nous dit, il y a une Vierge qui tient un enfant entre ses bras, et le roi est à genoux au-dessous. Donc vous imaginez l'image, la Vierge au-dessus avec l'enfant, et en dessous le roi à genoux. Louis, mon serviteur léal, ton bon vouloir est à mon fils féal, c'est à moi chose moult agréable. Autrement dit, la Vierge lui dit, oui, c'est, mais c'est agréable évidemment de concéder, n'est-ce pas, à ton cousin, en quelque sorte, cette église. Alors, sera logé en joie perdurable, des infernaux et d'annables palus, préservera cette abbaye notable, toi et les tiens, donc l'abbaye, le roi, les siens, par oraison louable, c'est-à-dire par prière, et mettra donc au nombre des élus. Le roi et les trois officiers, c'est l'image d'après, hein, et on va voir le texte en dessous. Ici parle le roi Louis le Gros, on l'appelle ainsi, à ses chevaliers. À ceux qui voulaient enlever de temps en temps le gros en me disant que c'était quelque chose qui arrivait tardivement, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, le roi Louis le Gros parle à ses chevaliers et à ses messagers, et il va les envoyer à Pontigny, l'abbaye. Pourquoi Pontigny? Puisque vous le savez, hein, si vous en souvenez bien, il y a un contrôle là qui va venir. Tout simplement parce que Pontigny est la mère de Chaly. Vous connaissez les relations de mère à fille entre les églises cisterciennes. Donc on envoie chercher quelqu'un, évidemment, pour l'abbaye. Mes barons et mes chevaliers, à vous mes secrets, je découvre, soyez mes féaux conseillers, mes fidèles conseillers. Personne vérité ne savent, n'est entrepris et faire urgente œuvre et fonder un dévot couvent afin que Dieu paradis œuvre à Charles que je plains souvent. Donc il explique à ce chevalier, voilà ce que vous devez faire pour, évidemment, le salut de Charles. Vous savez que par ci-devant, j'ai fait édifier l'église. Il faut envoyer poursuivant à Pontigny par bonne guise, quérir société requise, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un, et religieux bien de vous pour servir à Dieu, sans feintise, allez-y à coup, l'un de vous. Donc, rendez-vous à Pontigny, tout simplement, pour aller chercher celui qui va être l'abbé. On a bien fondé l'abbaye, maintenant il faut un abbé.
Alors ensuite, un abbé tenant la crosse de la main droite. L'abbé de Pontigny tenant sa crosse de la main droite, deux officiers à pied, ayant des esperons dorés aux pieds, l'approchent et le saluant, et d'autres officiers derrière à cheval avec cette inscription. Ici sont les messagers du roi qui parlent à l'abbé Pontigny. À l'abbé de Pontigny, pardon. Oui. Révérend abbé, Dieu vous garde, et votre couvent et vos frères, le roi nous transmet cette part, soit commandant à vos prières, vérité que puis nègre, ne puis nagre, à ce moment-là,
Nagir.
Ne peut, puis nagir.
Fait fonder un monastère. Mmh.
Il fait fonder un monastère, ne reste plus que des confrères pour faire le divin mystère. Charles, un des siens très aimés frères, et puis peu de temps trépassé, pour son âme ostée de misère, à ce dit moustier compassé, et afin qu'il soit effacé du piteux livre des damnés, et ut requiescat in pace, des moines il faut lui donner. Ici, dernier répond de l'abbé de Pontigny au messager du roi, Dieu le roi dans ses cieux couronne, et son frère semblablement, c'est bien raison que je lui donne, ce qu'il veut agréablement, croyez que véritablement aura dévote compagnie pour prier Dieu dévotement en la digne nouvelle abbaye.
Voilà, donc pour résumer rapidement, les chevaliers sont à Pontigny, ils sont reçus par l'abbé, il recommence l'histoire, il faut créer une abbaye en l'honneur de Charles le Bon, le frère, en réalité c'est le cousin, le frère de Louis VI, etc. Et il a fait fonder, donc le roi Louis VI a fait fonder un monastère, et il ne reste plus qu'à trouver les confrères, c'est-à-dire les moines, pour habiter cette nouvelle abbaye, en quelque sorte, qu'on appelle aussi le moustier. C'est la même chose, monastère-moustier, c'est la même origine. Donc, comme cela, grâce à cette église que l'on va fonder, il sera ôté du livre des damnés, c'est-à-dire c'est pour la rédemption des péchés de son âme qu'on va créer cette abbaye. Et finalement, on va voir évidemment que l'abbé va accepter évidemment cette demande. Et l'image d'après, on voit un abbé tenant la crosse de la main gauche. C'est important, selon qu'on tient la crosse de la main gauche, de la main droite, selon que la crosse est tournée vers l'abbé ou vers l'extérieur, on verra que ce soit pour un abbé ou un évêque, il y a là un sens que comprennent parfaitement les gens du Moyen-Âge et que souvent nous avons oublié. Donc, l'abbé de Pontigny tenant sa crosse de la main gauche avec cette inscription. Alors, il s'adresse à André.
Oui.
C'est pour ça que c'est intéressant.
Je vais me mettre.
Alors, André, bien sûr, ce n'est pas mon voisin et complice de RVM. C'est André, je vous dois une petite explication, c'est André de Beaudemont, qui est donc un moine de Pontigny, mais on verra que ce n'est pas n'importe quel moine. C'est un moine qui est de haut lignage, qui est distingué, on a l'occasion de le dire déjà, mais sachez qu'il a été un des grands seigneurs de la cour de Champagne, et il a été aussi un des rédacteurs civils de la charte des Templiers, au temps de Saint-Bernard. Donc vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Ah, donc l'abbé de Pontigny, alors, s'adresse à André, il dit c'est droit, c'est à toi, il faut que tu obéisses au roi. Et naît la pensée ébahie, abbé serait et le recteur, et il donne même le nom du prieur, ce sera donc chrétien, et vous irez avec 11 de vos frères, prier pour Charles de son cœur, toujours le mieux que vous saurez.
Oh!
C'était ce qu'il y avait sur la première colonne. Mmh. La première page de notre bande dessinée. Passons à la seconde colonne. Là. Alors, toujours la même chose, pardon. D'un côté, d'abord l'image, et ensuite on va voir le texte.
Un habit tenant la crosse de la main droite et deux religions devant lui avec cette inscription. Ici parle d'André à son abbé. Mon père abbé, je vous remercie. Digne ne suis pas de telle charge. Mais puisque l'ordonnez ainsi, il est raison que je m'en charge, sous obédience et sous verge, où je vous soumettez, moi et les miens.
Voilà, donc André, hein.
Oui, alors là, j'en prends pour
il moi. Il accepte, il dit, puisque vous l'ordonnez, il est raison que je m'en charge, hein, c'est tout à fait normal, en quelque sorte, je vous dois obéissance. Et la verge, attention, c'est à la fois morale et physique, en quelque sorte. Hein. Et nous sommes soumis, moi-même et les miens. Alors, l'image d'après, c'est le roi revêtu de son manteau royal. Il met la couronne sur la tête de son fils qui est à genoux avec cette inscription. Là aussi, ça n'est pas anodin. On est vers l'installation progressive de cette fameuse monarchie héréditaire qui a du mal à se faire valoir depuis les Capétiens. Le roi revenu donc met la couronne sur la tête de son fils et voilà. Le roi Louis le Gros couronne son fils Louis le Débonnaire, il lui dit. Donc là, c'est un flashback. Hein. Nous voulons repartir à Louis VI le Gros. Hein. Ouais. N'oubliez pas, nous sommes à l'origine donc, de la fondation de l'abbaye. Mon fils Louis, je vous couronne. Et le royaume vous saisit en vous mettant cette couronne de laquelle je me dessaisis. Donc, bien le passage du père au fils. Hein. Mon aîné fils, donc prérogative de l'aîné, je vous choisis. Vous veuillez roi en ma vie. Donc, je vous couronne en quelque sorte roi. Pendant que je suis encore vivant, pour être bien sûr que les choses se passent ainsi. Et ça aussi, c'est une chose que l'on voit évidemment régulièrement dans la pratique de la remise du pouvoir d'un roi à son fils aîné. Et il, sur tout plaisir et courtoisie, je vous recommande mon abbaye. Donc en plus, il recommande à son fils l'abbaye, donc le futur Louis VII, l'abbaye de Chaly. Et voilà la réponse de Louis VII, celui qui s'appellera plus tard Louis VII, mon très cher et honoré père. Assez pour recommander, tant que mon royaume prospère sera d'oppression gardé, pour mieux être contre-gardé, amorti tout le revenu de quoi elle est fondée, et ceux qui depuis sont venus. C'est-à-dire que je garantis en quelque sorte, non seulement la paix, mais aussi les revenus hein, que je garantis par ailleurs pour que l'abbaye puisse survivre. L'image d'après.
Le roi parlant à un de ses officiers, tous deux debout avec cette inscription. Ici, Louis le Gros se recommande au boutillier. Boutillier, vous savez assez que pour les louanges de celles par qui vos mots sont effacés, j'ai fait cette abbaye nouvelle entre vos domaines et est-elle dont devez être bien joyeux. Au nom de la haute pucelle, soutenez-la de bien en mieux. Alors, le roi, le bouteiller, tous deux debout avec cette inscription, le bouteiller répond: « Sire, croyez certainement par moi sera entretenue, et tant que j'aurai sentiment, bien doit-elle être soutenue, quand c'est pour servir si grande dame, de qui joie nous est venue, et pour sauver de Charles l'âme. »
Voilà, donc il va reprendre évidemment les injonctions de son père, à savoir que l'Église est consacrée à la pucelle, c'est-à-dire à la Vierge, oui. Qui est aussi la grande dame. Hein. Bon, oui. Voilà, on trouve les différentes appellations. Et puisqu'on parle de bouteiller, il faut que je m'arrête un petit peu. C'est quoi cette histoire de bouteiller? Oui. Ben, tout simplement, c'est un puissant seigneur qui appartenait à la famille de Louis VI le Gros, donc aux proches de Louis VI le Gros, et qui était seigneur, évidemment, extrêmement important pour Chaly, puisqu'il possédait la plupart des terres qui se trouvaient aux alentours de l'abbaye, seigneur de Senlis, d'Hermenonville... De Montépilloy, etc. Hein. Ouais. Et c'est grâce à Bouteiller que l'abbaye va recevoir très rapidement des donations pour pouvoir s'établir et s'organiser avec ses forêts, ses prairies, ses étangs. Donc, de nouveau, on parle de Charles, hein, sauver l'âme de Charles. Par la suite, donc, on va trouver une autre inscription. Le roi parle à la reine, dans ce coup-ci... on est vraiment au théâtre, hein. C'est très bien découpé, on pourrait quasiment filmer la scène. Donc maintenant, le roi parle à la reine. Ma chère amie, épouse Alix, Alix de Savoie, hein, j'ai fait un dévot monastère, si veuille qu'il soit nommé Chaly, pour l'honneur de Charles, mon frère, le requérons d'humbles prières, les moines, la Vierge Marie, à ce que Dieu, mon fils, requiert, que son âme ne soit périe. Réponse de la reine. Mon époux est léal seigneur. Le moustier, dont je vous ai dit, le monastère, mais très agréable. Service ne pouvait grigner, faire à Dieu ne plus acceptable, pour ôter du pouvoir du diable, donc pour ne pas que, évidemment, l'âme de Charles Bon soit dans les mains du diable. Charles, votre frère Germain, sera à l'Église profitable plus que tout autre fait humain. Donc, c'est l'accord de la reine, un accord complet pour que cette abbaye soit fondée en l'honneur de Charles Bon. Elle va d'ailleurs, par la suite, aller tout à fait dans ce sens, puisque les donations, après la mort de Louis le Gros, vont se poursuivre et qu'elle va offrir un certain nombre de terres à l'Église de Chaly. La zone de Sainte-Marguerite, par exemple, pour ceux qui connaissent la région. On continue.
Une vierge élevée tenant son enfant entre ses bras. Un abbé, à genoux tenant sa crosse des deux mains, sa mitre à terre devant lui, et des religieux derrière. Dame qui est comparée par bon droit à la fleur de lys, nous vous prions, Vierge honorée, gardez votre lieu de Chaly.
Voilà, alors ces quatre vers, on va les retrouver très souvent dans les textes qui vont évoquer l'abbaye de Chaly. Dame qui est comparée par bon droit à la fleur de lys, hein, rappelez-vous ce que j'ai dit à propos de la fleur mariale, la fleur de Marie, hein, par excellence. Donc, nous vous prions, Vierge honorée, donc il demande à la Vierge, évidemment, de garder le lieu de Chaly. Et après le dernier vers, l'auteur ajoute, alors ça, quand je dis l'auteur ajoute, je parle de celui qui écrivait avant la Révolution. Là, on vient de faire, vous voyez, c'est un peu difficile tout ça, mais j'en suis conscient. Mais il fallait vous donner le texte, qui était le texte dit original, mais en même temps, vous donner la source. Et la source, c'est à quelqu'un qui écrit avant la Révolution, à la période de Louis XV, on va dire. Et voilà ce qu'il ajoute. Les armoiries de France qui sont au-dessus du tableau sur le mur, n'ont que trois fleurs de lys, car il est fait mention de Charles V comme l'un des bienfaiteurs de la maison. Décidé en conséquence de l'antiquité de ce tableau, qui est d'une écriture gothique très serrée, etc., etc., je ne rentre pas dans les détails, mais cette description, on va la retrouver évidemment dans différents textes qui vont précéder la Révolution, et je vous épargnerai évidemment toute la bibliographie qui s'ensuit. Il y a quelques différences entre dans les transcriptions, les copies, etc., ce qui est normal. Il y a des erreurs, volontaires ou pas, mais elles n'interpolent le sens profond du texte qu'on a vu ensemble, qui, selon toute vraisemblance, est de la fin du XIVe, début du XVe siècle. Alors, évidemment, après cette description des armes de France, ou plutôt pendant la description des armes de France, j'ai évoqué un personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelle Jean de Montreuil. Il va écrire, alors c'est une lettre, alors là aussi, vous savez, la lettre, c'est une formule. Hein, ça ne veut pas dire qu'il a envoyé cette lettre à son destinataire, même si on le connaît. Il s'agit de Nicolas de Clamange. Nicolas de Clamange, c'est quelqu'un quand même qui est en relation assez souvent avec Jean de Montreuil, mais c'est aussi un personnage important dans le monde universitaire de l'époque. Hein, et c'est un écrivain, je dirais, de latin. Hein. C'est la renaissance du latin, à ce moment-là, au début du XVe, qui écrit dans un style très classique. On dit que Pétrarque a été son modèle. Donc il écrit, nous dit-on, à Nicolas de Clamange, je ne suis pas sûr que celui-ci ait reçu la lettre. Permettez-moi quand même de vous présenter un peu mieux cette lettre avant qu'on puisse la lire en grande partie. C'est une description enthousiaste de la vie cistercienne de Chaly. Si Jean de Montreuil est un des représentants les plus notables de la vie intellectuelle de la France du Nord, hein, à la fin du Moyen-Âge, il mérite quand même une petite biographie. Hein. Il a d'abord étudié au Collège de Navarre et à la Faculté de théologie de Paris. Il a été prévôt de Saint-Pierre de Lille. Bah, tout simplement, pensez à Montreuil, à côté de Lille. Hein. Jean de Montreuil, c'est Guilet de Montreuil, tout simplement. Il fut secrétaire de Charles VI, qui lui confia diverses missions diplomatiques. Il va connaître ainsi la curie pontificale d'Avignon, puis celle de Rome. Il admire les lettres latines, mais soucieux de rester français, il va être l'animateur d'un cercle de lettrés, dont Nicolas Clamange, l'illustre destinataire de cette lettre. à la recherche des manuscrits anciens. Il va continuer une œuvre littéraire qui est en grande partie consacrée justement à la conservation de cette littérature qu'on croit perdue. Il a été aussi un écrivain politique qui dénonce les prétentions anglaises à la couronne de France. Alors évidemment, ça ne va pas déplaire au roi de France. Et il va faire partie de ceux qui vont exalter la loi Salique, c'est-à-dire la succession des rois de France d'homme à homme, hein, et qui va donc écarter évidemment les femmes de la couronne française. Ce n'est pas forcément vu de loin ce qu'il a fait de mieux. C'est vers 1415-1416 qu'il va venir à Chély, peu de temps avant que la guerre civile recommence et que les massacres bourguignons à Paris se déclarent. Et on pense que c'est lors de ceux qui vont éclater en 1478 qu'il va être tué, comme beaucoup d'autres pensionnaires du collège de Navarre. Bien reçu par les moines, nous dit-il, il dépeint le monastère comme un lieu enchanteur, favorable à l'étude et à la méditation, dans un style souvent redondant et maillé de citations classiques. Alors là, c'est du teasing pour la prochaine fois, pour vous dire, il faut écouter cette lettre de Montreuil qui va nous donner une vision tout à fait précise du lieu de Charles.